Cette saison dans l'EM, cette saison 6, on a pu aussi réviser chaque mois l'Europe, l'Union européenne, les débats politiques qui la traversent, mais aussi le fonctionnement de ces institutions. Ça ne saurait faire de mal. Justement, après les élections législatives en France et le renouvellement de l'Assemblée nationale, on s'est dit, tiens, mais au fait, au niveau européen, les lois sont faites par le Parlement. Et donc, on a demandé à Maël Cordeau, le président de l'association Braise Europe Finistère, de nous rappeler le fonctionnement du Parlement européen.
Avant d'expliquer le fonctionnement actuel, il convient de revenir sur quelques éléments historiques clés de la mise en place de l'appareil législatif européen. Concernant sa première apparition, il n'y a pas beaucoup de secrets de ce côté-là. C'est en 1952, suite à la création de la Communauté européenne du charbon et de l'acier. Le Parlement s'appelle alors Assemblée commune et compte 78 membres, issus des chambres parlementaires nationales des 6 États membres fondateurs. Là, c'est les membres qui peuvent sanctionner l'autorité exécutive, c'est-à-dire une sorte d'ancêtre de l'actuelle Commission européenne. Après, en 1957, avec le traité de Rome, apparaît le terme d'Assemblée parlementaire européenne, qui n'est à ce moment que consultative. Il y a cette fois-ci 142 membres, toujours issus des chambres parlementaires nationales. En 1962, le nom change et devient celui que l'on connaît aujourd'hui, Parlement européen. Ce n'est que 17 ans plus tard qu'arrive le moment de faire élire les membres du Parlement européen au suffrage universel direct. La première élection se tient alors en 1979 et fait élire 410 députés pour 5 ans. Pour rappel, Simone Veil devient la première personnalité élue à la tête de ce nouveau Parlement. Et cela de fait qu'elle est un véritable symbole. À partir de ce moment et du fait des élargissements successifs, le nombre de députés n'a cessé d'augmenter jusqu'à atteindre 751 avant le Brexit. Aujourd'hui, on ne compte que 705 députés, les autres sièges étant gelés pour de probables futurs élargissements. Ainsi, vous l'aurez compris, les députés sont les représentants directs des citoyennes et citoyens de l'Union européenne. De fait, le Parlement européen dispose d'une place très importante dans le triangle institutionnel, puisqu'il porte la voix des Européens.
Et alors, concrètement, comment est portée la voix des Européens dans le Parlement ?
Le cœur névralgique du Parlement européen repose sur les europarlementaires. En effet, les députés répartissent leur temps entre diverses activités. À Bruxelles et Strasbourg, ils travaillent avec les autres députés de leur groupe politique. Ils sont aussi amenés à rencontrer les lobbies afin de construire leurs textes et amendements en vue des votes en plénière. Des eurodéputés peuvent aussi se porter candidats à la tête de commissions de travail entre europarlementaires. On parle alors de la commission pêche, de la commission commerce international ou encore de la commission défense et sécurité. Il y en a plein d'autres. Les europarlementaires, comme les députés de l'Assemblée nationale, disposent aussi d'une enveloppe qui leur permet d'avoir des assistants et des frais de mission. Certains eurodéputés font le choix d'avoir une permanence proche de leur lieu de résidence, une manière d'ancrer leur présence localement et être au plus près des acteurs locaux. Mais on peut aussi se poser la question de cette position puisqu'on parle de députés européens. Ne devraient-ils pas parcourir l'Union européenne constamment et donc rencontrer les autres citoyennes et citoyens ? La question reste ouverte et d'ailleurs nous allons y revenir notamment au regard des élections de 2024 qui pourront peut-être en partie répondre à cela. Cette activité de rencontre, donc, de discussion et aussi de participation à des initiatives locales dans les circonscriptions, permet donc aux eurodéputés de revenir à Bruxelles et Strasbourg avec de la matière qui émane directement des citoyennes et citoyens. Tout cela leur sert une nouvelle fois dans la partie travail législatif, qui se passe aussi en lien avec les autres institutions. Cela s'appelle le trilogue, par exemple, où dans le trilogue, le but est de parvenir à un accord provisoire sur un texte acceptable par le Conseil et le Parlement à la fois. C'est une partie du travail de co-législation dont nous allons parler plus tard. Ce qui est décrit ici correspond en quelque sorte au quotidien idéal de l'europarlementaire. Il n'y a pas d'obligation de procéder de cette façon. C'est d'ailleurs pour cette raison que le Parlement européen a pu être qualifié, en particulier en France, de maison de retraite, puisque l'une des seules obligations et d'être présent en plénière, qui ont lieu à peu de choses près une fois par mois. C'est une semaine qui est consacrée dans le travail de l'europarlementaire. Mais ceci est nettement moins le cas depuis 2019.
Maël Cordeau, est-ce que vous pouvez nous expliquer la fabrique de la loi européenne ?
La première des choses à comprendre est que le Parlement européen est co-législateur, et cela depuis 2009 avec le traité de Lisbonne. C'est-à-dire qu'il légifère en parallèle du Conseil de l'Union européenne, que l'on appelle aussi le Conseil des ministres de l'Union européenne. C'est d'ailleurs dans ce Conseil que s'exerce la présidence tournante, qui va revenir à la Suède le 1er juillet prochain, et qui était jusqu'à présent à la France, depuis janvier. Revenons au Parlement européen qui, via la procédure législative ordinaire, qu'on appelle aussi dans le jargon PLO, où on vote les propositions législatives de la Commission européenne. Néanmoins, le Parlement européen n'est pas compétent dans tous les domaines. Ce dernier peut légiférer sur la gouvernance économique, la liberté, la sécurité et la justice, l'énergie, les transports, l'environnement, la protection des consommateurs ou encore la PAC parmi tant d'autres sujets. C'est ainsi que naissent les avis, recommandations, règlements et directives, puisqu'on ne parle pas de loi, mais d'actes juridiques de l'Union européenne. Il existe des domaines dans lesquels le Parlement européen ne dispose que d'un rôle consultatif. C'est le cas des politiques liées à la concurrence, par exemple. Dans le cadre de procédures d'adhésion ou de retrait de l'UE, le Parlement donne simplement son avis.
À part la construction des lois, quels sont les autres pouvoirs du Parlement européen ?
Parmi les autres pouvoirs du Parlement européen, il y a à chaque élection européenne le pouvoir d'investiture de la Commission européenne. Encore une fois, depuis le traité de Lisbonne de 2009, le Parlement dispose de plus de pouvoirs dans la désignation du président de la Commission européenne, puisque le candidat proposé par le Conseil européen est soumis au vote. Le président de la Commission européenne a été, en 2014, la tête de file du parti vainqueur de l'élection et le candidat choisi. C'est le fameux système allemand du Spitzenkandidat. En 2019, la candidate choisie a résulté de discussions entre chefs d'État et chefs de gouvernement et a été élue par le Parlement. Il y a un autre point important relatif à la Commission européenne. En effet, tous les commissaires proposés par les pays membres sont soumis à des auditions devant des commissions du Parlement européen, qui peut d'ailleurs refuser des candidats. Par exemple, la France avait proposé Sylvie Goulard en 2019, qui a été refusée du fait d'une affaire judiciaire. Le Parlement européen a également le pouvoir d'adopter une motion de censure et faire démissionner l'ensemble des commissaires si la procédure devait aboutir, mais cela n'est encore jamais arrivé. Aussi, le Parlement peut ouvrir des commissions d'enquête temporaires pour examiner des infractions ou mauvaises applications du droit de l'Union européenne, notamment dans les États membres.
Maëlle, est-ce qu'on peut dire que le Parlement a un réel poids politique ?
Tout est relatif. D'un côté, le Parlement européen dispose d'un pouvoir puissamment symbolique. Par exemple, lorsque les députés votent à la majorité le oui à l'ouverture de la candidature de l'Ukraine à l'Union européenne, c'est un message extrêmement puissant, mais le revers de la médaille fait que ce vote n'est qu'un avis, comme je le disais précédemment. Néanmoins, la Commission européenne et le Conseil européen ne peuvent pas ignorer ce vote. Dans les exemples récents où le Parlement européen a eu un poids politique important sur les impulsions de la Commission européenne, c'est par exemple le sujet Ouïghour en Chine. En effet, la mobilisation parlementaire et dans une moindre mesure la mobilisation citoyenne ont été telles que la Commission européenne a proposé d'interdire aux frontières de l'espace Schengen tous les produits issus de l'esclavage. Une impulsion qui, auparavant, aurait pu prendre plusieurs années avant d'être lancée.
Et les prochaines élections européennes, elles auront lieu quand et comment va se dérouler le scrutin ?
Ce qui est sûr, c'est que l'élection va avoir lieu en 2024. Il y a une volonté qu'elle se déroule le jour de la fête de l'Europe, c'est-à-dire le 9 mai. Mais rien n'est encore arrêté parce que cela induit beaucoup de complications. Chaque État membre dispose de son jour traditionnel pour voter. Souvent, le scrutin s'étale du jeudi au dimanche. Il faudrait donc accorder tout le monde sur un seul et même jour pour ce faire. Il est aussi proposé d'instaurer un jour férié pour répondre à cette problématique. D'autres idées sont au sujet du vote par correspondance ou alors permettre aux citoyennes et citoyens d'avoir un vrai poids dans le choix du ou de la présidente de la Commission européenne. Le but aussi de cette élection de 2024 est clairement de redonner un souffle à l'Union européenne. Bien que les différents événements internationaux des dernières années ont démontré la capacité de l'UE à agir et réagir de plus en plus vite et de plus en plus fort, par exemple la Covid-19 étant le premier élément déclencheur, puis il y a eu le Green Deal et puis maintenant il y a l'invasion de l'Ukraine. Et pour revenir aux élections, il convient aussi de rappeler le processus du scrutin. Le premier point, c'est que chaque État membre choisit comment le scrutin va se passer chez lui. En France, avant 2019, il y avait une liste par parti politique, par grande région, donc Grand Ouest, Nord, Paris, Sud-Ouest, etc. En fonction des résultats, on composait la liste des eurodéputés envoyés au Parlement européen. En 2019, les règles changent un peu en France et les listes deviennent nationales, c'est-à-dire que chaque parti dispose d'une seule liste pour tout le territoire national. La répartition dans le Parlement se fait quand même toujours à la proportionnelle. Cela soulève la question de la représentativité des territoires alors qu'on connaît l'importance de la place des régions dans l'Union européenne. D'ailleurs, en 2019, en France, et cela fait aussi écho à l'actualité politique française, c'est l'extrême droite qui a remporté l'élection européenne. C'est aussi la France et l'Italie qui ont, à peu de choses près, envoyé le plus de députés d'extrême droite pour représenter les citoyennes et citoyens de l'Union européenne. On ne sait pas encore comment cela va se dérouler en 2024. La seule chose qui est réellement en débat et qui émane d'ailleurs de la consultation sur l'avenir de l'Union européenne, c'est le fait que chaque personne pouvant voter aura deux voix. C'est-à-dire que la première voix restera la même qu'avant, et la seconde sera pour une liste pan-européenne ou transnationale qui sera composée par les formations politiques au niveau européen. Par exemple, un parti pourra composer une liste avec des candidats de chaque État membre issus de partis politiques ou d'associations, visiblement, dans le but de gagner des sièges supplémentaires au Parlement, toujours répartis à la proportionnelle. Il y en aura donc 28 supplémentaires. Ces listes promettent donc la naissance de vraies campagnes politiques européennes, notamment au sujet d'enjeux qui concernent l'ensemble des États membres. Cela pose une nouvelle dimension européenne qui devra toujours s'inscrire dans l'intérêt des citoyennes et citoyens européens, puisqu'il s'agit toujours du Parlement européen.
Maëlle Cordeau de l'association Braise Europe Finistère qui continuera à nous proposer ses chroniques européennes dans l'EM la saison prochaine.